Bon, comme vous le remarquez tout de suite, c'est un titre, enfin vous ne le remarquerez pas forcément tout de suite d'ailleurs, c'est un titre redondant, la jouissance qu'il ne faudrait pas, puisque jouissance est connotée d'une contradiction interne. La jouissance est en soi-même quelque chose qu'il ne faudrait pas. Donc simplement, j'essaye de développer un peu ce qu'il ne faudrait pas et surtout les conséquences à quoi ça porte. Alors que cette jouissance, il ne la faille pas, bien qu'elle soit obligatoire, bien que chacun y ait tenu, il ne la faudrait pas pour des raisons, je dirais, de principes qui fondent la poussée elle-même, la poussée constante elle-même de ce que Freud a appelé la libido, faute de mieux. C'est-à-dire que dès le départ, il y a quelque chose dans le plaisir qui automatise en quelque sorte, qui automatise la pulsion, qui l'automatise sous forme d'une répétition qui fonctionne dès le départ, sous forme d'une mise en boucle dont c'est trop peu de dire que lorsqu'on a fait le petit schéma de Lacan d'une boucle, on n'a pas compris pour autant pourquoi il y a une boucle qui va d'un côté et qui revient de l'autre, et qu'on ne peut guère le saisir que si l'on voit que cette pulsion est dès le départ l'objet d'un refoulement à cause du plaisir même qu'elle provoque, non pas pour des raisons externes dont on sait trop qu'elle interdit, qu'il ne le faudrait pas pour quelqu'un interdit, on ne sait pas trop lequel d'ailleurs, ça pourrait être, si ce n'est parce que le plaisir est en lui-même anéantissant. C'est donc une fonction interne au plaisir, un trop de plaisir, à propos duquel il y a un certain flottement, je dirais, dans la doxa psychanalytique, tout simplement du fait de traduction incertaine, entre principe de plaisir et sa limite, la limite du principe de plaisir étant un trop de plaisir, un excès de plaisir, c'est-à-dire une barrière interne à la jouissance elle-même dès le départ, interne. Pourquoi ? C'est parce que le sujet, pour exister, du fait de sa propre existence, refoule ou plutôt rejette cette jouissance, que par conséquent cette jouissance lui revient dans la figure de l'extérieur, du fait de sa culpabilité de l'avoir rejeté, mais vous voyez bien que dès le départ, il s'agit d'un acte du sujet qui engendre la mise en boucle pulsionnelle. Voilà. C'est ce qui fait, je dirais, l'insistance de ce mouvement pulsionnel. C'est pas une insistance de la demande maternelle, comme ça se véhicule, je ne sais pas trop pourquoi, en ambiance lacanienne un peu facilement. Non, c'est l'insistance de la faute du sujet par rapport à son propre rejet. C'est-à-dire, c'est dès le départ l'acte par rapport à une jouissance toujours déjà en excès. Voilà. Donc, il y a la pulsionnalité, ce qui origine la jouissance du corps, qui, je dirais, fonctionne de cette façon-là dès le départ, mettant dès son origine la jouissance sous le régime de l'impossibilité d'atteindre son but, c'est-à-dire une jouissance totale ou encore la satisfaction en effet de la demande maternelle du fait de l'acte de rejet du sujet qui acquiert ainsi dès le départ, pour reprendre un point qui était mis en débat par Alain tout à l'heure, sa liberté propre, bizarrement, je dirais, c'est une liberté coupable dès le début de l'existence, avec le refoulement lui-même, du fait même de l'existence, je dirais. Voilà. Impossibilité de la pulsion à se satisfaire, qui engendre les différents destins pulsionnels qui ont tous le même objectif, objectif absolument décrit en quatre mots par Freud, c'est-à-dire se nier soi-même. C'est ça, la pulsion, elle va à sa propre fin. Elle est porteuse dès le départ de... Elle est doublée dès le départ par la pulsion de mort, hein, ce qui est tout à fait important pour les avatars que je vais essayer de décrire de ce qu'il ne faudrait pas, c'est-à-dire l'avatar terminal, l'avatar civilisé de la pulsion de mort, avec tout ce qui touche non seulement au religieux et au totémisme, mais à la dimension orgastique de cette pulsion de mort, si j'arrive à faire mon développement jusque-là. Voilà. Alors, comme je vais faire ce développement à partir de ces avatars de la pulsion, de ce qu'il ne faudrait pas dans le champ plus précisément du sexuel, je note d'abord un des destins de cette pulsion qui n'arrive pas à se réaliser sous forme d'un terme qui n'est peut-être pas assez repris, qui double également toutes les pulsions, de même que la pulsion de mort. J'y insiste, ça n'est pas une pulsion particulière, la pulsion de mort, pas plus que la pulsion que je vais décrire maintenant, qui est la pulsion d'emprise, c'est-à-dire, vous verrez ce terme 10 ou 12 fois dans les trois essais déjà, hein, comme destin de la pulsion, c'est-à-dire... On n'y arrive pas sur son propre corps, paf, on attrape le corps d'un autre et on essaye de faire pareil. Hein. C'est-à-dire, la jouissance par personne interposée. Tout de suite, nous jouissons à partir de l'autre. Nous jouissons à partir du partenaire. Faire jouir, c'est déjà jouir. Mais à quel prix? Au prix d'une impersonnalisation. Là, je donne tout de suite mon programme qui branche le destin de la pulsion de mort sur ce que j'ai dit en deux mots. Du religieux et de la dimension orgastique du rapport sexuel, c'est que si jouir, de la jouissance de l'autre, toujours du partenaire, je veux dire, c'est pas une jouissance auto-érotique, faut pas tout mélanger. Hein, je veux dire, la jouissance du rapport sexuel, ça n'est pas une masturbation à deux, voilà, c'est clair. Hein. Donc, jouir par le biais du partenaire grâce auquel on jouit, jouir de la jouissance de l'autre, c'est se perdre, se dépersonnaliser d'une certaine façon. D'où l'importance du nom propre, du rapport au nom du père, pour le dire comme ça, qui fait mon branchement, et avec le religieux, dans la jouissance mystique par exemple, et avec l'orgasme, dans la jouissance du rapport lui-même, en tant que jouissance du nom. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, je fais une diagonale aussi rapide de ce que je vais essayer de développer. Donc, importance de cette pulsion d'emprise, où la jouissance nous revient toujours du dehors par le biais d'un autre nous-mêmes, hétéro ou homo, dans le rapport de ce qu'on peut appeler l'auto-érotisme à deux, hein, puisqu'il existe toute une phase de l'auto-érotisme qui se développe en auto-érotisme à deux sous l'égide de cette pulsion d'emprise qui passe à un autre régime, hétéros, strictement hétéros, cette fois-ci, c'est-à-dire hétéros, qui implique une différence sexuée. Dans la mesure où, sur l'échec de la pulsion, se branche une fantasmatique qui implique elle-même la sexuation, qui implique elle-même un devenir de la bisexualité foncière de chaque être de ce fait sexué. Parce que, je veux dire, c'est bien gentil de mettre les gens en colonne, mais il ne faut pas oublier que c'est sur la base d'une bisexualité foncière. Et que quand on considère le tableau de la sexuation de Lacan, il ne faut pas oublier que c'est une photo et qu'on ne comprend pas un film si on ne voit qu'une photo. Voilà, c'est trop rapide. Hein. Voilà, alors, donc, impersonnalisation de la jouissance dans le rapport de l'auto-érotisme, de l'auto-érotisme à deux, qui se branche sur une fantasmatique, de quelle façon? De quelle façon ça se branche sur une fantasmatique? Je l'ai dit, c'est, je dirais... une culpabilité dès le départ, une culpabilité antique, une culpabilité du fait de rejeter, en quelque sorte, qui fait que la recherche de la punition de cette faute est instantanée. Instantanée, je veux dire, les enfants très petits, on les regarde, on voit ça, il faut tout de suite qu'ils fassent assez vite des bêtises. Des bêtises, je veux dire n'importe quoi. Taper dans la soupe, bref, je passe sur les détails, vous avez tous vu des scènes de ce genre. Recherche de la punition, en quelque sorte, dimension libératrice de la punition, à la mesure de quoi ? À la mesure de cette culpabilité de l'entrée dans le rejet, de la demande maternelle, de la mise en boucle de la pulsion, qui est mise en boucle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une rythmicité qui en elle-même est déjà masturbatoire. C'est déjà masturbatoire. Le sucettement, Freud le fait remarquer, je me souviens plus où, le sucettement est déjà masturbatoire. Les gens qui mangent du chewing-gum, ainsi de suite, en public, énervent d'autres. Ils sont suspects de se masturber publiquement. Enfin bref, il y a quelque chose dans la rythmicité pulsionnelle qui est déjà hautement érotisé en tant que c'est un mode d'échappatoire à la demande maternelle, c'est-à-dire un mode d'échapper à l'être du phallus de cette demande pour l'avoir. C'est-à-dire, en effet, quelque chose de masturbatoire qui s'accompagne du goût de la demande de punition. La demande d'interdit de manger du chewing-gum, par exemple. Il y a des pays où on interdit de manger du chewing-gum. À Taïwan, je me suis fait interdire de manger un chewing-gum dans un ascenseur, ça énervait le liftier, voilà. Donc, où j'en suis ? Donc, il y a cette position, je dirais, d'échapper à l'être pour l'avoir, c'est-à-dire quelque chose de masturbatoire, qui va se focaliser davantage sur le pénis et le clitoris, dans la mesure où c'est la zone qui échappe électivement à l'appétit maternel. Je dirais que c'est un mode de transmission du refoulement. J'entre pas dans ce détail, qui n'en est pas un, qui fait que les deux sexes sont équivalemment avec un seul symbole, le symbole phallique. Le Goffet n'est pas là, mais hier soir, il s'interrogeait sur cette importance de la signification phallique. Elle se résume à ça. C'est que c'est la même chose pour les deux sexes, je dirais, cette prévalence du symbole phallique, ou comment se tirer des pattes de l'autre grâce à la masturbation qui, j'aime à le répéter, c'est la liberté. Voilà. Masturbation coupable, et naissance immédiate du fantasme, ça y est, je l'ai dit, c'est quoi ? C'est l'enfant ébattu qui vient tout de suite sur le devant de la scène, et comme mieux vaut pas se faire battre par la mère, puisque c'est d'elle, c'est par rapport à elle qu'il y a la culpabilité, invention, je dirais, quasiment mythique d'un père, c'est-à-dire d'une instance fustigatrice. Instance fustigatrice qui est également une instance qui fait jouir, puisque ça accompagne la masturbation. Voilà. Donc le père est un séducteur, et le désir naît de cet instant précis. Avant, on ne peut pas parler, à proprement parler, de désir, c'est la jouissance, c'est encore un autre registre. C'est-à-dire que avec le désir, on entre dans la jouissance, dans une tentative de résolution fantasmatique de l'impasse de la jouissance. C'est tout à fait différent, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est une tentative de résolution de l'impasse de la jouissance grâce au fantasme, un fantasme qui est également aussitôt polarisé premièrement par du contradictoire, parce que le père qui bat, ça fait mal. Deuxièmement, le père en question, il fait jouir, il séduit. Troisièmement, cette séduction est incestueuse, c'est dangereux. Quatrièmement, il vaut mieux le flinguer, d'où la première version, la version noire, souvent occultée, mais qui est celle qui a permis d'inventer la psychanalyse du traumatisme sexuel. C'est ça, rien d'autre. C'est le désir lui-même, la naissance du désir, qui est subjectivement traumatisante. Voilà, c'est ça le traumatisme subjectif, immédiat, par le propre désir lui-même, du fait de ses contradictions, puisque vous avez vu, à un bout, à l'entrée, il y a la masturbation, une jouissance, et à l'autre bout, il y a le meurtre. D'où, je dirais, le caractère absolument indissociable dans la sexualité humaine et du masochisme, et du plaisir, et du vœu de meurtre, par rapport à celui-là même qui engendre le désir. C'est-à-dire l'agent de la fustigation, l'agent de la castration, qui risque de devenir cause du désir. C'est ça le problème. C'est ça. Donc il y a celle qui, jusqu'à un certain point, d'accord, on fait quelques compromis avec la séduction paternelle, mais pas trop, parce que c'est quand même incestueux au bout du compte, c'est dangereux. Et puis il y a ceux qui rentrent en guerre, c'est-à-dire la différence du genre sexuel et de l'anatomie s'impose à partir de là, et vous pouvez toujours y aller pour faire une mise en colonne masculin-féminin si vous ne partez pas de ce point-là. La mise en colonne, c'est un certain moment, le moment de l'invention du père mythique, point final. Et le père mythique s'annule dans sa propre opération. C'est-à-dire, il ne fait exception que le temps de cette mise en colonne, c'est tout. Parce que, du fait même qu'il fait exception, il est voué à la mort et à la castration. Donc, il retombe dans la règle. D'ailleurs, Lacan le dit, il dit, c'est le seul cas où on voit de manière explicite que l'exception confirme la règle. C'est ça. Donc le père qui fait exception, c'est une photo du temps du mythe. C'est tout. Voilà. Alors, on peut pas faire à partir de là un plat qui retombe sur quoi ? Une confusion invraisemblable, dont on se demande si les gens qui ont lu Freud voient bien qu'ils la font, entre homme et masculin, et femme et féminin. Non, chacun doit faire ce départage, et il le fait comment ? Il le fait par le biais du fantasme de séduction, par le biais de rien d'autre, c'est-à-dire en départageant qui est l'homme, qui est la femme, dans cette affaire. Ça n'est jamais gagné d'un coup, n'est pas toujours l'homme qui le croit, n'est pas toujours la femme qui le croit, n'est pas toujours séduit qui le croit. Je veux dire, le fantasme de séduction polarise la mise en genre. Polarise la mise en genre, fait un pôle masculin et un pôle féminin qui s'actualise dans le fantasme de séduction lui-même. Il y a celles qui sont séduites jusqu'à un certain point, voilà, avec les retours de bâton que l'on imagine, et il y a ceux qui s'efforcent de séduire, tout cela pour quoi faire, c'est-à-dire pour actualiser ce qui est à l'origine de la mise en fantasme elle-même, c'est-à-dire quoi ? Ce qui est de l'ordre de avoir le phallus, chercher à avoir le phallus, plus exactement, ou bien chercher à l'avoir par le biais indirect de se le faire donner. Mais finalement, aucun des deux n'a le phallus, naturellement. C'est l'entre-deux de la mise en tension fantasmatique du fantasme de séduction qui s'actualise de cette façon. C'est tout. Rien d'autre que ça. Rien ne prouve que ce soit l'homme qui ait le phallus autrement que dans cet entre-deux du désir. Rien ne le prouve mieux, d'ailleurs, que, je dirais, dans la relation sexuelle elle-même, le fait que le phallus en question échappe très vite aux commandes de celui qui s'en croit le propriétaire. Au fond, il ne fait pas tout à fait ce qu'il veut, ça lui échappe. Comme en témoignent toutes ces écritures du rapport sexuel que sont les symptômes sexuels. Ce sont des écritures, en effet, de ce qui rate dans la mise en relation. Un ratage qui fait écriture. Voilà. Cystite, éjaculation précoce, impuissance brutale, etc. Bref, le monsieur n'est pas propriétaire du phallus, ça se passe donc dans cet entre-deux du désir, mis en tension par la fantasmatique, dont le point de départ est quoi ? C'est une lutte, c'est la lutte du mise en rapport masculin-féminin qui dépend du fantasme, qui n'est jamais gagné une fois pour toutes. Voilà. Alors, dans cette mise en tension du fantasme, dans cette mise en tension du fantasme, ce qui est, je dirais, le point de départ de la mise en tension, c'est quoi ? C'est que ceux qui se rangent sous le drapeau masculin le font pour autant qu'ils disent non à la séduction paternelle. Hein, c'est-à-dire qu'ils disent non à leur propre féminisation. C'est-à-dire qu'ils rejettent cette féminisation sur le dos des femmes, voilà, qui en prennent donc, je dirais, double ration de féminisation, une pour elles, une pour le monsieur qui les met à cette place. Ce qui fait que vous voyez que le fantasme, c'est quelque chose qui s'actualise tout le temps grâce à une autre présence. Il n'y a pas de fantasmatique sans une autre présence. S'il n'y a encore personne, il y a quelqu'un qui va être fantasmé en effet. C'est quelque chose qui est incarné par quelqu'un dont on peut dire, qu'on peut comme ça appeler, parce que c'est plus parlant, le porte-manteau du fantasme. Je reprends ça d'une nouvelle de Gogol, je me souviens plus de son titre juste à l'instant. C'est-à-dire que toujours nous sommes à la recherche d'un porte-manteau, avant même de l'avoir trouvé, on y pense, on en rêve, etc., qui nous permette de nous situer comme sujet sexué, par rapport à l'autre sexe. Il me reste 5 minutes. Voilà. Bon, c'est bien embêtant. Voilà. Alors, je dirais que dans cette tension, c'est dans cette tension que s'actualise la question d'avoir le phallus, d'essayer de l'avoir, c'est-à-dire la question du désir, c'est ça. Hein. La question du désir, elle s'actualise comme ça, mais vous voyez avec quel type d'impossibilité, c'est que déjà la mise en tension elle-même, elle s'accomplit sur le biais, c'est-à-dire le désir lui-même s'accomplit sur le biais d'un « il ne faudrait pas être féminisé par le père du côté des hommes » qui dégaine rapidement de ce fait, hein, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de guerroyer entre eux, etc. Ou voilà, c'est une lutte fraternelle, un déplacement de la lutte contre le père, je dirais. Savoir qui est la fille ou qui est l'homme, c'est-à-dire qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a la plus grande, etc. Ou qui est-ce qui est le plus malin, etc. Voilà. Donc tentative constante d'avoir le phallus, hein, de jouir déjà du fait d'arriver à l'avoir, hein. Mais la jouissance en elle-même, c'est simplement un déplacement de l'impossibilité à partir du « il ne faudrait pas », mais c'est pas pour ça que la jouissance va se soulager. Elle continue d'être porteuse de sa propre contradiction. Et elle peut se suffire d'elle-même. Je veux dire, il y a des hommes ou des femmes qui jouissent seulement de la séduction, du fantasme de séduction, du fait de l'emporter dans une lutte où ils l'ont. Mais c'est bien gentil de l'avoir. Encore faut-il arriver à s'en servir, je dirais. Et que la question du rapport à l'impossible n'est pas réglée pour autant. Voilà. N'est pas réglée pour autant. Alors, je dirais, pour faire bref, puisqu'il me reste que 5 minutes, que deux maintenant.
Il peut avoir un coup d'État.
Hein. Un coup d'État. Ouais. Du coup, ça me coupe la parole. Alors.
Je l'ai dit dans les actes contraires,
qu'il faut prolonger.
Non, mais on peut aussi revenir sur la question de la.
Ouais, attendez. Laissez-moi, je voudrais faire une belle conclusion. Voilà. Donc, le point de départ de la fantasmatique, il ne faut pas oublier que dans cette mise en tension du fantasme masculin-féminin, le point de départ de la fantasmatique, c'est le rapport au père mythique, qui va continuer à doubler l'ensemble des opérations de la séduction. On croit être deux, pas du tout. Il y a je dirais, cette présence tierce, symbolique, c'est peut-être beaucoup dire, parce que dans quelques cas, le père qui double l'affaire n'est pas du tout symbolique, mais c'est un père tout à fait violent, sodomite, etc., qui double les opérations fantasmatiques, qui a ses propres effets dans la relation, et ce qui caractérise, je dirais, la doublure névrotique de cette fantasmatique, c'est qu'il s'agit pour l'homme, en occupant la place du père, c'est-à-dire c'est un rapport frontal au père dans la relation sexuelle, hein, un rapport frontal au père, de se débarrasser de ce père en prenant sa place, et pour la femme, de sortir de la famille, de sortir de la séduction, elle aussi, du père, grâce à celui qui prend la place du père. Voilà. Hein. Je dirais que ça, c'est la doublure des opérations,